Donc oui, la grâce commune, c'est un sujet qui me travaille depuis 2-3 mois. Ça ne fait pas 2-3 mois que je suis au courant que le sujet existe, mais je ne sais pas si c'est comme ça pour plusieurs d'entre vous. C'est un sujet, c'est une expression qu'on entend depuis toujours qu'on est croyant. Et on sait à peu près ce que ça veut dire, ou peut-être certains le savent mieux, c'est sûr, il y a différents niveaux de compréhension. Mais je me souviens pas qu'on ait parlé de ça de façon plus systématique ici à l'Église. Et il y a quelques mois de ça, on avait notre retraite pour hommes. Et puis, dans cette retraite-là, on a discuté de différentes choses. Et puis on a abouti le dimanche matin à parler un peu de la grâce commune comme étant une avenue pour expliquer des choses qui nous arrivent. Et pour vous l'expliquer mieux, donc, j'ai commencé une étude il y a quelques semaines de ça. Et j'avais des doutes. À savoir si je devais parler de ça. Vous savez, avant d'amener une série, j'essaie toujours de voir si Dieu est... Comment dire, si c'est la volonté de Dieu, mais en même temps, comment savoir, hein? Puis donc, des fois, on y va à tâtons. Et dernièrement, j'étais dans un questionnement là-dessus et j'ai commencé à étudier le sujet comme ça, en me disant, je vais commencer à étudier. Et c'est mardi passé qu'on s'est vu, hein? C'est mardi. Il y a quelques jours de ça, j'étais en train de commencer à mettre mes notes en ordre. Et puis, lui, il débarque à mon bureau. On avait un rendez-vous. Et puis, moi, j'étais en train de dire, « Seigneur, c'est-tu ta volonté, ce sujet-là? » On a besoin d'un clin d'œil. Alors, le monsieur débarque dans mon bureau, comme ça, à 1 h l'après-midi, je pense. Puis, il s'assoit. La première chose qu'il dit, « Devinez quel sujet ces temps-ci. » m'anime. Je dis, oui, lequel? Il dit, la grâce commune. Je dis, ah! Et là, je regarde mon ordinateur, tu sais, ma page était ouverte, puis c'était marqué le titre, grâce commune, fait que je me sens à l'aise dans le sujet. Plus que ça, il y a une apparition du Saint-Esprit, mais tu sais, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à là. La grâce commune nous dit comment Dieu est présent et impliqué dans sa création, et particulièrement dans la vie des hommes, malgré la condition pécheresse de ces derniers. Donc, commençons tout de suite par éclairer une problématique, puis j'ai mis celle-là parce que c'est celle que j'ai souvent remarquée, ça a souvent été la mienne aussi, c'est que, comme croyant, on peut avoir de la difficulté, depuis qu'on est croyant, à se situer par rapport à ce monde. On a toutes sortes d'opinions, toutes sortes d'impressions. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit ça, mais je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est supposé de vivre un chrétien, en fait, dans la vie de tous les jours. Parce que quand on lit l'Écriture, on est témoin des apôtres, à partir du livre des Actes. Tu sais, on parle après la Pentecôte, Jésus n'est plus là. Donc, on tombe dans un rythme de vie plus ordinaire, plus normal. C'est les débuts de l'Église. Et on les voit rarement manger. Comprenez-vous, les textes sont faits ainsi que on les voit dans l'action de la chose de Dieu tout le temps. Tu sais, le reste... Par exemple, est-ce que Pierre allait chez son beau-frère des fois? Pierre a-t-il un beau-frère? Est-ce que vous êtes déjà demandé ça? Non? Moi, je me demande des affaires de même. C'est moi qui n'est pas normal. Trop de questions. Non, mais pour moi, ça m'a toujours hanté de savoir c'est quoi la vie normale de ces gars-là. Je veux dire, ils peuvent pas avoir vécu une intensité comme ça 24 heures sur 24. Tu vis pas vieux, c'est que tu fais ça. Ça peut pas. Puis en même temps, on sent que, oui, l'apôtre Paul, lorsqu'il donne le CV de sa feuille de route de tout ce qu'il a vécu, tu sais, qu'il est en péril chez les païens, en péril sur les mers, en péril dans les montagnes, en péril ici, en péril là, 5 fois 40 coups moins 1, lapider une place, tu dis, aïe, aïe, tu sais, t'as l'impression, tu dis, tu dors-tu, toi, Paul? Tu sais, puis quand il y a un gars qui meurt, qui tombe en bas du 3e étage, va ressusciter le gars, continue le meeting... On est là, OK. Et surtout, quand j'étais jeune croyant, je lisais ça, puis Tu sais, moi, je m'endormais, il fallait que j'aille me coucher, tu sais, puis il fallait que je mange le matin, puis... Il me semble que ça va pas, je suis charnel. Je me souviens même une fois, j'avais lu un ouvrage de D.L. Moody, un auteur que j'aime beaucoup, et qui, lui, M. Moody, il a vécu un siècle et demi avant nous, mais lui, il expliquait qu'il se levait à 5 heures le matin, puis que son temps de prière, c'était de 5 heures à 9 heures. Puis il allait manger après. Fait que ça faisait à peu près 3 mois que j'étais sauvé à l'époque. Puis on fait ça quand on est jeune croyant, on se dit, m'a essayé ça, moi. Puis c'est pas une joke, là, lundi matin. Tu sais, on commence toujours le lundi, les affaires, là. Fait que le lundi matin, 5 heures, là, c'est le cadran sonne. Et puis j'avais un appartement chez mes parents, je vivais seul. Alors moi, je me lève, bon, un matin, on commence, je m'agenouille, il y avait mon divan, fait que je me mets à genoux, là. Et puis, je me suis réveillé 2-3 heures plus tard. Couché sur le tapis. Je me souviens même pas si j'ai eu le temps de dire bonjour à Jésus. Ça c'est. Et j'ai essayé, dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de dire, moi, il faut que je fasse comme D.L. Moody. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de la vie extraordinaire de ce que ces gars-là semblent avoir vécu. Pas encore là, si vous lisez l'ouvrage d'un missionnaire ou d'un personnage, un grand pasteur, un grand enseignant, vous lisez leur vie, puis ça donne toujours l'impression qu'ils sont toujours dans l'affaire biblique tout le temps, tout le temps. Et au fond, c'est pas vrai. C'est que ces hommes-là menaient une vie normale. Ils mangeaient, ils allaient à la salle de bain, ils faisaient tout ça, puis... Il y en a qui ont eu des enfants, des familles. Et heureusement qu'avec les épîtres, les lettres de Paul, ben on entre un peu plus dans la compréhension de ce qui pouvait se vivre. Et puis, mais quand même, ça c'est le premier trouble. Le deuxième trouble, c'est celui de comment Dieu regarde le monde. Donc, pendant très longtemps, j'étais pris dans une idée, puis peut-être que vous avez eu cette même problématique-là, c'est l'impression, je vais le lire, la plus commune aux chrétiens est que Dieu est surtout présent dans la vie de son Église et des chrétiens et que les incroyants sont laissés à eux-mêmes. Donc, c'est comme, il est avec nous, il s'occupe pas du reste. Donc, c'est un peu comme si nous, on s'était vu la mission d'aller les chercher, puis de les éveiller à ça, puis de les amener, puis de... C'est pas faux en passant, mais ça peut être faux de la façon qu'on le voit aussi. Donc, ainsi donc, Dieu n'exercerait pas vraiment une souveraineté particulière parmi les incroyants parce que ces derniers ne lui appartiennent pas. Cette vision du monde conduit à croire que les chrétiens sont sous l'unique contrôle de Dieu et les incroyants sont sous l'unique contrôle du diable. Donc, si vous m'écoutez, vous dites, ben, c'est pas tout à fait faux. Mais en fait, c'est que c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est jamais si simple. Ce raisonnement conduit à penser que les chrétiens sont des gens qui vivent plus dans un univers surnaturel et que les incroyants, eux, ben, sont dans un univers naturel. Donc, quand Jérémie évoquait l'idée d'aller chez le dentiste, quand on a mal aux dents, c'est un peu comme si nous, qui appartenons à un royaume surnaturel, on devient un peu charnel ici, non? Tu vas à l'hôpital, tu vas voir un dentiste. Et moi, je me souviens, dans mes jeunes années de vie chrétienne, ce genre d'idée-là circulait. C'était comme, écoute, si t'as besoin d'un médecin, parce que t'as pas la foi, peut-être, puis t'as pas assez la foi, en tout cas, puis parce que sinon, tu pourrais guérir. Donc, c'est cette vision que Dieu est vraiment avec les chrétiens, mais il l'est en particulier avec les chrétiens qui ont vraiment la foi. Et là, ben on se retrouve dans une condition où on se rejette un peu parce qu'on se dit, hey, moi, je serai jamais assez spirituel pour être capable de vivre ces choses-là. Donc, ça crée tout un tas de dommages. Donc, vous voyez, c'est un peu la vision qu'on peut avoir. Comment Dieu regarde les incroyants? Donc, ce que la grâce commune, si ça vous intéresse d'étudier ce sujet-là, ça pourrait répondre à beaucoup de vos questions et replacer le cadre de la souveraineté de Dieu dans sa juste perspective. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui respire et qui existe sur la planète Terre sans que Dieu soutienne cette vie et ce souffle. Pour citer Paul dans Acte 17, lorsqu'il parlait à l'Areopage d'Athènes, il va dire « Car en lui, en parlant de Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » La vie, le mouvement et l'être. Et plus loin, quand Paul continue, il dit « c'est pas ce que vos propres poètes disent, d'ailleurs. » Donc, c'est comme si Paul disait « Nous, Juifs, on est d'accord avec ce que vous savez aussi. » Que de Dieu, on tient la vie, le mouvement et l'être. Et c'est pas, on n'a pas juste un Dieu pour nous, les chrétiens. Ce Dieu est le Dieu de toute la terre. Toute la création lui appartient. Au moment où on se parle, il est en train de gérer dans des galaxies à des milliards d'années-lumière des phénomènes qui arrivent qu'on voit pas. Dieu s'occupe de ça. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de chacun des cheveux qui tombent en bas de notre tête. Il y a toujours une joke niaiseuse qui me vient. Dans mon cas, ça prouve qu'il sait compter beaucoup. Donc, la grâce, il y a deux angles à la grâce de Dieu. En fait, je vous en donne deux. La grâce particulière et la grâce commune. On pourrait diviser la grâce sous ces deux grandes appellations. Dans les deux cas, que ce soit la grâce particulière, c'est la grâce du salut, la grâce qui est accordée aux rachetés, aux élus, grâce particulière, et grâce commune à tous les hommes, celle qui ne mène pas au salut, mais qui est cette grâce que Dieu accorde à tous les gens, à sa création. Dans les deux cas, c'est toujours une grâce imméritée. Toujours une grâce imméritée. La grâce, est par nature même, ne peut pas se mériter. C'est une grâce. Quand on parle de grâce commune, on est en train de dire l'ensemble des bénédictions et des bontés que Dieu a envers tous les hommes. Quels qu'ils soient, malgré leurs conditions, malgré leur niveau de rébellion contre lui, Dieu nourrit, Dieu bénit, Dieu protège. Donc, parlons un peu plus de la grâce particulière, non commun à tous les hommes. La grâce commune est la grâce que Dieu accorde à ceux qu'il s'est rachetés par son sacrifice. Donc, grâce particulière, grâce que Dieu accorde à ses rachetés, par son sacrifice à la croix. Cette grâce, on peut dire, elle inclut tous les moyens de grâce que Dieu utilise, guérison, délivrance particulière, miraculeuse. Pour moi, c'est clair. Quand j'ai été sauvé en 1983, j'ai été instantanément délivré de la consommation de la drogue, instantanément à un certain soir précis, et ce, sans que je cherche cette délivrance. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ un soir, un samedi soir, et puis j'ai jamais été capable de reconsommer par la suite. J'avais un problème de consommation assez important que j'étais pas capable de contrôler. Et puis, j'ai prié pour mon salut avec quelqu'un. Je suis parti de là, et la drogue fonctionnait plus. Moi, j'ai pas voulu, j'ai pas pensé, j'étais pas rendu là dans ma relation avec Dieu. En fait, j'avais zéro relation avec Dieu. J'ai pas, par la foi, demandé d'être délivré de ça. J'ai quitté ce lieu et après ça, je pouvais plus consommer. C'est étrange, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vraiment une grâce particulière qui s'accompagne de celle de la grâce du salut, vous voyez. La grâce commune, elle, et je relis la définition que Jérémie a lue de Wayne Grudem, qui dit « La grâce commune est la grâce au nom de laquelle Dieu accorde aux humains d'innombrables bénédictions qui ne font pas partie du salut. Le terme « commune » désigne ici ce qui est général à tous les hommes et ne se limite pas seulement aux élus. » Donc, la grâce commune est en quelque sorte l'ensemble des bénédictions que Dieu accorde aux hommes malgré la chute, malgré leur rébellion, malgré qui ils sont et malgré qu'ils soient nommés par l'Écriture ennemis de Dieu, par nature, ennemis de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament de cette grâce commune-là. Puis la semaine prochaine, je vais mettre détailler un peu plus dans quoi elle se distingue, cette grâce commune-là. Mais notamment, vous avez dans Luc chapitre 17, on n'ira pas là, c'est pas important, mais dans Luc 17, vous avez Jésus qui va en chemin rencontrer 10 lépreux qu'il va guérir. Et un seul revient. Et Jésus mentionne notamment que c'est un Samaritain. Il va même dire, ai-je pas guéri 10 lépreux, mais comment sait-il qu'un seul et en soi un Samaritain, ce soit lui qui revienne? Cette fois-là, Jésus-Christ a fait du bien à 10 personnes. Il y en a juste un qui a eu de la reconnaissance. Le manque de reconnaissance des 9 autres les a pas rendus lépreux à nouveau, pour autant. Pourquoi cet exemple-là est intéressant? C'est que Dieu est gracieux envers sa création, envers des gens qui sont rebelles envers lui, et ce même si jamais ils seront reconnaissants devant lui. Il est bon quand même. Quoique un jour tout genou fléchira devant lui. Vous avez beaucoup d'autres exemples, un exemple rigolo quand même. Aux noces de Cana, Jésus va changer de l'eau en vin et du bon vin. Et la quantité de vin, c'est 800... c'est 900 bouteilles. C'est méchante cave à vin. Du Jésus. Un gros cru. Évidemment, ce miracle-là est une illustration de la nouvelle vie qui s'est offerte en lui par son salut. Il change les choses en une nouvelle substance, parlant de notre vieille nature qui, en lui, devient une nouvelle création. Mais néanmoins, c'est un exemple de la grâce commune. C'est comment Dieu bénit de façon abondante les gens qui sont à ce mariage-là par le vin. On pourrait citer Jean chapitre 6 également. Dans Jean 6, le miracle des pains et poissons. Avec peu, il va nourrir une énorme foule. Sachant très bien, parce qu'un peu plus loin, dans le même chapitre, si vous connaissez bien Jean 6, un peu plus loin, cette foule va être dispersée, puis lui-même va dire qu'il ne se fiait pas à eux, il savait ce qui était dans leur cœur. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, vous avez cette déclaration que tous l'abandonnèrent, sauf les 12. Les disciples l'abandonnent. En d'autres mots, Dieu va bénir de façon inconditionnelle, sans s'attendre à rien en retour. Il donne. Il est gracieux. Il est gracieux avec abondance. Un point intéressant à mettre en lumière ici, lorsqu'une Église met de l'avant des œuvres humanitaires et développe une vision très humaniste, elle croit donc que le message de l'Évangile doit passer par la grâce commune. En ce moment, il y a cette idée-là qui est en circulation chez les chrétiens, c'est que on délaisse un peu la proclamation du message de l'Évangile direct, qui pourtant est celui qui suscite la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'une proclamation, celle de la parole de Dieu. On aime beaucoup actuellement, c'est populaire, faire du bien. Et je lis des articles là-dessus et j'essaie de comprendre le raisonnement qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on va faire plein de bonnes œuvres de façon très intentionnelle. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne doit pas le faire. Je suis en train de vous dire qu'il faut des fois comprendre le mécanisme qui amène des chrétiens ou des églises à réfléchir sur le comment ils font les choses et pourquoi ils les font et qu'est-ce qu'ils s'attendent à obtenir. Donc, c'est comme si on veut utiliser le mécanisme de la grâce commune. On dit « Dieu est bon, Dieu bénit, donc à travers nous, il devrait aussi bénir. » Est-ce que c'est vrai? Oui. Si Dieu bénit des peuples entiers, C'est aussi par l'abondance qu'il donne à son Église, qui, elle, va redonner en abondance, donc des œuvres humanitaires, des œuvres missionnaires, et il va s'en faire. Donc, c'est un fruit tout à fait normal. En d'autres mots, si ce fruit-là n'existe pas, on a un problème. C'est pas supposé de nous servir juste à nous-mêmes, tout ça. Mais, il y a toujours un piège. Le piège, c'est que tranquillement, on délaisse le message de l'Évangile, pensant que les moyens de la grâce commune, donc la bonté dont on va être les témoins ou les acteurs, va faire une job dans le cœur des gens et peut-être qu'ils se tourneront vers Dieu. Est-ce que ça marche selon l'Écriture? Je dis selon l'Écriture. Non. Curieux. Si on décide d'être généreux comme Église et de donner, on doit le faire à la manière de Dieu. Et lorsque Dieu est généreux, il ne s'attend à rien en retour. Le geste n'est pas manipulant. Jésus n'a jamais fait des choses avec l'espoir que les gens vont le trouver suffisamment gentil pour venir l'écouter. Inexistant dans les Écritures. Jésus, en chemin, a fait du bien. Il a guéri des malades. Et Luc nous dit que on peut même pas nombrer, chiffrer tout ce qu'il a fait, tellement que c'est énorme. Jésus, le bien qu'il a fait. Il a fait ça en Israël, il a fait ça à Jérusalem, il a fait ça en Samarie, il a fait ça en Galilée, il a fait ça dans les villages, les villes, partout. Partout. Et devinez quel a été un jour le verdict de ce peuple à son endroit. Crucifiez-le. Si vous pensez que c'est la grâce commune qui est le moyen d'évangéliser les perdus, vous vous trompez. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire du bien aux gens. Je suis en train de dire qu'il faut changer la séduction qui nous fait penser qu'on peut moins parler de Jésus, faire plus parler de nous et de nos bonnes œuvres, et que si les gens viennent à nous, ensuite on va les amener à Jésus. C'est un couloir trop long. Oui, si les gens remarquent nos bonnes œuvres, un jour, ils vont probablement glorifier Dieu, comme Pierre le disait. Mais il y a une différence entre des gens qui remarquent nos bonnes œuvres et chercher à être remarqués par les gens, par nos bonnes œuvres. C'est deux univers différents sur le plan des attitudes et des motivations et de la manipulation qui se cache derrière. Donc, en fait, le salut des âmes n'est pas dans la grâce commune, mais dans la grâce particulière qui, elle, est directement liée à la proclamation du message de l'Évangile. Les nombreux miracles de Jésus qui attestent la bonté illimitée de Dieu pour les hommes n'a rien fait de plus que d'attirer des foules et sans plus. Les foules étaient impressionnées, étaient bénies, étaient tout ça. Et c'est fascinant comment les miracles, comme pour un croyant, authentifient la messianité de Jésus, mais pour l'incroyant, ça... En d'autres mots, je suis en train de vous dire qu'à moins que Dieu ouvre les yeux d'une personne, tous les miracles du monde ne feront pas la job. Toute votre bonté personnelle au nom de Jésus ne fera pas la job. Ce que ça va faire, ça va vous rendre sympathique, ça c'est super, très bonne idée. Et Paul Washer, je pense que ça fait 20 fois, je le cite pour cette affaire-là, mentionne que si ce sont ces moyens-là qui vous font attirer des gens dans vos églises, vous allez probablement réussir à les remplir, mais vous allez les remplir de gens qui s'attendent à ce que vous leur redonnez ce qu'ils avaient reçu pour être attirés. Et si vous ne leur redonnez pas, ils vont partir. C'est pas tout à fait le salut. C'est une rencontre humaniste, une rencontre humaine, une bonne rencontre humaine, une rencontre sans doute humainement utile, mais qui n'est pas nécessairement toujours porteuse de salut. Pas toujours. Ça peut être un moyen que Dieu utilise également. La grâce commune inclut également le fait, et ça c'est assez particulier, que Dieu nous protège de notre propre folie. La grâce commune, c'est aussi le moyen par lequel Dieu donne des autorités politiques et policières dans nos pays. Paul dira dans Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi, à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Avez-vous déjà réfléchi à ce passage-là? J'avais une discussion avec Pasteur Jeff sur ce sujet-là, la grâce commune, dernièrement, puis il m'expliquait à quel point c'est important de comprendre que si Dieu n'avait pas institué et à la fois les gouvernements et les autorités publiques, si on était livré à nous-mêmes, ça serait le carnage à grandeur. Regardez seulement là, les pays là, qui sont déstabilisés politiquement actuellement sur la planète. En Asie, mais il y en a eu en Afrique aussi. Puis il y en a eu déjà en Amérique du Sud. Toutes les fois qu'un gouvernement est affaibli, que ses ressources coercitives, qui est le système, la police et son armée, est affaiblie, il se passe quoi? Le chaos. Et malheureusement, c'est souvent les femmes et les enfants qui en sont les pires victimes. Le nombre de femmes qui se font violer dans ces moments-là. Il y a comme ce moyen que Dieu a donné pour retenir la folie. Et c'est fascinant de comprendre que Dieu se sert de la faiblesse d'hommes, en fait, pécheurs, pour être capable de susciter au milieu d'eux un système organisé, légal, qui va arriver à maintenir une certaine cohésion sociale, même si beaucoup de ces gens-là sont corrompus à la fois. Sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu, vraiment. Et ça fonctionne, en partie. C'est comme si on est dans un monde qui tient à bout de fil. On sent qu'on est à peu de choses du chaos. Je dis ça souvent, si la police faisait la grève seulement 24 heures au Québec, là, on pense qu'on est dans un pays civilisé, là, qu'on est du monde instruit, on est scientifique, là, nous autres. Là. On pense ça, hein? 24 heures sans police. Embarrez-vous, cachez-vous. Le pire de tout ce qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme va ressurgir. Ça va être effrayant. Donc, Dieu, par sa grâce commune, maintient l'ordre. Je vais tourner dans le texte principal que je voulais vous lire ce matin. C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 43. Quand on parle d'autorité, c'est vraiment très important, cette question-là. Moi, une des choses qui m'a montré l'importance de respecter les personnes en autorité, même si c'est tough des fois, j'ai le souvenir d'un certain billet de contravention que j'ai reçu, que ma femme me rappelle une fois de temps en temps. Tu sais, le ticket que tu sens ne pas mériter, là, celle-là, là. Mais attention, il y a dans ce texte-là une idée qui te dit que si tu résistes à l'autorité, c'est aussi à Dieu. Là, tu vas dire, ouais, mais l'autorité n'est pas... C'est pas de ça dont il s'agit, c'est qu'il y a une fonction-là, puis tu vas l'honorer quand même. Est-ce que ça se peut vivre ça? Y a-t-il un homme dans l'Écriture qui en est la démonstration saisissante? Daniel. Si vous voulez avoir un bon temps pour comprendre le rapport entre un homme, un croyant, un homme sérieux, un prophète de l'Éternel, Daniel, c'est un homme à qui Dieu révèle des songes. Là. On a de la grosse pointure, là, Daniel. Eh bien, Daniel se fait déporter dans un pays qui n'est pas le sien et il se retrouve dans la cour d'un prince païen, Nebuchadnezzar d'abord et Darius par la suite, il y a eu Cyrus parfait. J'ai traversé quelques épisodes. Et Daniel, si vous regardez au début de son livre, il va sauver des astrologues. Nous, comme chrétiens, on dit, ils sont démoniaques, eux autres. Il a réussi à sauver la vie en interprétant une situation. Il a sauvé la vie de tous ses compétiteurs. Grâce commune qui est passée par Daniel ce jour-là. Il a été un moyen de salut pour des gens, de délivrance. Peut-être salut éternel, de délivrance d'une situation terrible. Daniel devient important dans la cour du roi parce qu'il est reconnu pour son intelligence et sa sagesse qui est supérieure à tous les mages du royaume, tellement que c'est le genre de gars que les princes, les rois veulent à côté d'eux. Et un jour, c'est Darius qui se fait passer un sapin. Il va voter un édit. Je pense que c'est dans Daniel 6. Un édit, comme quoi il fallait l'adorer lui, puis il se fait avoir dans quelque chose. Mais au fait, l'édit, c'était un piège pour faire condamner Daniel, qui lui, Daniel n'adorait que son Dieu. Donc, tous les jours, Daniel avait cette manie d'adorer Dieu sur la place publique. Tu sais, dans un monde qui nous dit « Dieu dans vos maisons », là, Daniel, il achètera jamais cette affaire-là, lui. Lui, il sortait sa galerie, il se tournait vers Jérusalem. Qu'il y ait un édit qui l'interdise ou pas, pour un homme comme Daniel, ça ne change rien. Il est fascinant. Donc, Daniel est mis sous arrêt, se retrouve dans une fosse au lion. C'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais on devrait se la raconter, cette histoire-là, parce qu'elle est fameuse pour nous. Daniel se retrouve dans une fosse au lion, et quand Darius est obligé de le lancer dans cette fosse, Darius se rend compte qu'il s'est fait avoir, mais c'est un édit royal. Il peut pas aller contre son propre édit. C'est pas possible. C'est la seule chose qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, c'est avec peine et tristesse que Darius livre Daniel au lion. Et Darius, ce soir-là, va pas bien. Il ne fait pas venir de concubine. Darius aime Daniel. Maintenant, mettez-vous dans la peau de Daniel. Essayez de visualiser la situation. Vous vous retrouvez devant une meute de lions enragés qui n'ont pas bouffé depuis un certain temps à cause d'un roi épais qui s'est fait passer une petite vite dans un piège contre vous et il n'a pas allumé le gars. Et vous, ça fait des années, des mois que vous servez fidèlement ce roi-là et à cause de lui, vous êtes là, vous allez mourir. Normalement, vous êtes frustré bien raide. Daniel, il est étrange. Il rentre dans cette fosse-là. Et Darius est là. Hein? Il va dire, « Puisse le Dieu que tu sers avec persévérance, Daniel, puisse-t-il te garder de... » Et Daniel, c'est comme le genre de gars qui va dire, « Écoute, inquiète-toi pas. Si Dieu veut que je meure, je vais mourir. Puis s'il veut me garder des dents des lions, on va le faire. » Il est reposant. Mais c'est pas reposant ce qu'il vit. Mais lui, il est complètement reposant. Il passe la nuit là et Dieu a fermé la gueule des lions, c'est rien passé. Darius, le lendemain, se présente là. Et juste l'hommage que Daniel va rendre au roi est fascinant. Tu sais, Darius va dire, tu sais, quand il apporte, Daniel, t'es-tu encore là? J'imagine le gars, là, vas-tu voir un tas de sang de restants humains? Écoutez, Lyon, à la gang qui était, il ne doit pas avoir beaucoup de restants. Ça lème les os, ça aussi, ça, ces bébites-là, ça bouffe tout. Hein. Et là, Daniel va dire, « Ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers m'a sauvé de la gueule des lions. » J'ai eu une misère à réagir comme ça quand j'ai eu un ticket. Que je ne méritais pas. Ce que j'essaie de vous dire, question d'interprétation. Mais en fait, il y a quelque chose dans le principe de la grâce commune et comment Dieu organise les sociétés qui nous échappe souvent à nous, les croyants. On n'honore pas les gens qui sont en fonction. Vous savez, on a un premier ministre, qui s'appelle M. Trudeau. Il parle toutes sortes d'opinions sur lui. Mais vous savez quoi? Si jamais vous étiez convoqué à le rencontrer, que vous soyez d'accord avec lui ou que vous le trouviez, vous lui trouvez tous les défauts du monde, il vous faudrait être extrêmement honorable en sa présence. C'est l'homme à qui Dieu a permis de devenir celui qui dirige notre pays. Respect. Vous savez, comment vous vous habilleriez si vous aviez rencontré M. Trudeau? Est-ce que vous prendriez vos vieux vêtements, vos jeans tout croche? Non, vous disiez, non, je rencontre le premier ministre, je vais sortir mon kit. Vous savez, le vêtement que vous portez, quand vous allez quelque part, là, le vêtement que vous vous mettez attribue une valeur à la personne que vous rencontrez. Vous saviez ça? Sociologie. Le vêtement est porteur d'une symbolique énorme. Si vous allez dans un mariage en gougoune, vous êtes en train de lancer un message. En fait, il y a deux messages. Vous êtes en train de dire aux mariés que vous n'avez pas plus de respect qu'il faut pour eux. Un. Et deux, vous êtes en train de dire que vous êtes un égocentrique. Pourquoi? Parce que juste un égocentrique pour se dire, les gens vont me prendre comme je suis, comme je me sens, ma femme même, ma vie de même. Ils vont me prendre de même. Il y a plusieurs années, il y a très longtemps au Saguenay, j'avais eu un staff meeting, staff avec la gang là-bas, et j'avais dit au staff de l'Église, spécialement ceux qui sont sur la scène le dimanche et ceux qui sont à l'accueil, tu sais, ceux qui ont des tâches plus officielles, j'ai dit, j'aimerais ça que vous soyez endimanché le dimanche. Endimanché, ça ne veut pas dire de vous quitte cravate au complet, j'en porte jamais moi-même, mais endimanché. Il me semble que c'est important parce que il y a des gens qui viennent nous voir ici, puis c'est une preuve de respect. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir avec eux. Si je vous parle de ça, c'est que la grâce commune, c'est cette façon que Dieu a de traiter les gens, même s'ils ne lui appartiennent pas. Il les a nourris quand même, il les a guéris quand même, il s'est occupé d'eux quand même. Dieu est bon de cette bonté. Il y avait une personne qui m'avait dit cette fois-là, moi, là, dans ma job, je suis vendeur, il faut que je m'habille propre toute la semaine pour mes clients. Là. La semaine, moi, je prends un break. Relax. Et ça m'avait choqué d'entendre ça, puis ça me choque encore d'entendre des affaires de même, parce que tu es en train de nous dire que les gens, ta clientèle qui te rapporte ton salaire, c'est important pour eux parce que ça te rapporte. Mais quand ça ne te rapporte pas, ça ne veut plus rien dire. C'est égo. Une église, c'est un endroit où on se rencontre avec Dieu, pas avec Justin Trudeau. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Ça doit être respecté, au plus haut point. Là, je ne suis pas en train de lancer un code vestimentaire. Je suis en train de dire, pensons à ce qu'on fait. Devant Dieu, les choses sont beaucoup plus importantes qu'on le pense. Tout ça a de l'importance. Écoutez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit parle. Saviez-vous que nos mots parlent plus, disent plus de choses que la substance des mots eux-mêmes? Les attitudes, le non-dit, le non-verbal. Le silence est souvent plus criard que des paroles. J'ai souvent remarqué que des gens se font remarquer par leur absence dans le temps de Noël. Tu sais, la famille, puis là, tu as un frère, une sœur ou quelqu'un qui décide de ne pas venir. Son absence, là, crie plus fort que s'il était là. Tout parle. Tout est en train de dire quelque chose. Absolument tout. C'est fascinant. Donc, je suis en train de vous dire que la valeur des gens n'a rien à voir avec la valeur qu'on leur accorde, mais c'est la valeur que Dieu leur accorde peu importe qui ils sont. Donc, on n'est pas appelé à vivre avec Dieu comme on se sent, mais comme les choses sont d'après Dieu. Nous, on est dans une génération selfie, égocentrique, narcissique. C'est moi, moi, moi. J'écoutais une émission dernièrement à Radio-Canada. Il y avait un studio, beau studio, super beau décor, une animatrice, belle femme. Elle reçoit deux artistes de relève. Deux gars avec une tuque sur la tête, un chandail déchiré et des jeans tout croche. C'est très à la mode de faire ça. Mais savez ce que ça incarne? Ça incarne les gars qui vont dire, hey, c'est moi, ça, c'est moi, si je me sens de même, ça, c'est moi, là. Moi, je suis un artiste, là. Prenez-moi de même. Je vais vous faire remarquer que les artistes qui sont comme ça sont ceux qui réussissent le moins. Hyper égocentriques. Matthieu, chapitre 5, vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, et là, c'est Jésus qui parle. On est dans un texte qui proclame de façon très nette le concept de la grâce commune. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ici, Dieu envoie les saisons, les pluies. Ce n'est pas les pluies comme on le pense ici. On est dans un pays où il y a des saisons, des pluies, qui permettent aux semailles, qui permettent tout le système de l'agriculture. Donc Jésus dit, mon Père, là, il regarde pas à savoir si vous êtes des justes ou des pas justes, des fins ou des pas fins. Il envoie les saisons. C'est comme ça qu'il marche. Et ce texte-là a différentes approches. Théologiquement, il y en a qui pensent que le texte est en train de vouloir dire que Jésus-Christ veut pousser la loi à son extrême, de mettre ça dans le tellement impossible. Donc, c'est comme s'il te dit de le faire, mais au fond, il veut dire que tu n'y arriveras jamais. Je ne suis pas convaincu de ça. À cause de l'apôtre Paul... Surtout, l'apôtre Paul redit les mêmes choses dans ses lettres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit produire ça. On ne peut pas produire. On ne peut pas produire le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie. On ne peut pas produire. C'est un fruit qui vient d'une vie qui est celle de la vie de l'esprit en nous. Mais je crois que Jésus est en train de dire ce que ça fait, cette nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ, dans la vie d'une personne. Ça l'amène dans une forme de maturité à reproduire le caractère du Père. Paul a béni ses ennemis. Étienne, dans Acte 7, a béni ses ennemis. Il y a plein de gens dans l'Écriture qui ont béni. Daniel a béni ses ennemis. Non? Je pense que oui. Il faut quitter la zone de notre égocentricité. Vraiment. C'est ce que le texte veut nous amener à penser, parce que le verset 46, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? On est toujours dans la grâce commune. Jésus est en train de saluer tout le monde. Faites du bien à tout le monde, même à vos ennemis. C'est fort, là. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là, je conclue sur ce texte fameux. Nous, par parfait, on entend sans erreur sur le plan moral. On est obsédé par notre moralité. Donc, on pense que c'est de ça qu'il parle. Mais le mot « parfait » ici, dans le texte original, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est le mot « téléos ».« Téléos », qui veut dire « finalité », en fait. C'est la signification la plus proche. « Finalité », c'est-à-dire que tout objet a une finalité qui est en soi. Donc, la finalité d'une bouteille de plastique comme celle-là, sa finalité, c'est de contenir de l'eau. La finalité d'un œil, c'est de voir. La finalité d'une oreille, c'est d'entendre. tout existe en vertu d'une finalité qui lui est propre. Donc, c'est le mot téléos. Le mot peut se traduire également par maturité aussi. Lorsque Jésus nous parle dans ce texte-là, ce qui nous amène à comprendre, c'est que de la même façon que le Père aime les gens et qui fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants, et envoie son soleil sur les bons, sur les méchants, cette maturité-là, cette finalité-là que Dieu accorde aux choses, c'est comme si Jésus disait, ayez cette finalité-là aussi comme objectif dans vos vies. Donc, ça n'a rien à voir qu'une perfection morale, une perfection spirituelle. C'est juste, il est en train de nous parler du fruit que le Père veut produire dans nos vies. Un croyant et quelqu'un qui, par la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans sa vie, va être amené à aimer les gens. Ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais continuel. On tombe, on se relève, on est à côté, on ne l'a plus. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que quand on passe à côté, on peut aller demander pardon aux gens aussi. Amen. On va continuer la semaine prochaine. Merci, Père, de bénir ce sujet. Merci de bénir cette grâce que tu accordes. Et Seigneur, ce fruit de l'Esprit qui est ce caractère de Christ en nous, Seigneur, c'est quelque chose après lequel on aspire, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas devenir du bon monde pour venir équiper notre justice propre de plus de justice contre les autres qui seraient moins, Seigneur. Seigneur, il s'agit ici de simplement être une manifestation de ta grâce et de ta bonté en nous. Combien t'as fait du bien à ce monde? Combien t'as fait du bien à des hommes, à des femmes, Seigneur? Et combien tu nous appelles à le faire aussi maintenant? Parce que c'est ton caractère d'être bon, d'être généreux, de toutes sortes d'abondance. Merci, mon Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine.